Si vous voulez bien vous tourner dans le livre de Jonas, dans la Bible qui vous a été remise, si vous avez pris une Bible, si vous avez besoin d'une Bible, on va vous en passer. C'est page 1034. Nous avons parlé déjà un peu avec le chapitre 1 de l'histoire de Jonas. On a rappelé que c'était l'histoire qui avait inspiré l'auteur de l'histoire de Gepetto et de qui d'autre ? Les aventures de, son nom m'échappe ? Pinocchio. Voilà, alors Pinocchio, vous le connaissez mieux probablement par l'intermédiaire de Walt Disney, et je vous invite à essayer d'oublier les images du dessin animé, des beaux dessins. On voit Gepetto, le créateur de Pinocchio, à l'intérieur du ventre d'une baleine, assis à table avec une bougie, etc., qui a l'air très confortable. Là, on va voir l'histoire et la description plus authentique de ce qui s'est passé avec ce prophète. Ce prophète, il a existé réellement, c'est un personnage historique. Le deuxième livre des Rois, au chapitre 14, verset 25, en parle comme d'un personnage bien réel. Je vais lire ce passage, c'est pas la peine de vous y tourner. Il est dit que au verset 23 du chapitre 15 du deuxième livre des Rois, la 15e année du règne d'Amatsia, le fils de Joas, sur Juda, Jéroboam, fils de Joas, le roi d'Israël, devint roi à Samarie. Il régna 41 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il ne se détourna d'aucun des péchés de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. Il rétablit les frontières d'Israël depuis l'entrée de Hamath jusqu'à la mer Morte, conformément à la parole que l'Éternel, le Dieu d'Israël, avait prononcé par son serviteur Jonas le prophète, fils d'Amittai de Gath-Hépher. Et il apparaît donc comme un personnage historique qui avait prophétisé à l'époque du roi Jéroboam le deuxième sur Israël. Et on a aussi le prophète Nahum, qui 150 ans plus tard a fait référence à ces événements. Et puis, c'était allé là, lorsque le prophète parle, Jonas, la question, on voit qu'en fait, Dieu lui donne une mission et qu'il commence par désobéir de la façon la plus flagrante qui soit. Quelqu'un me suggérait que peut-être il n'était pas encore prophète quand il a désobéi. Le débat reste ouvert parce qu'on ne sait pas, lorsqu'il est question de lui dans le deuxième livre des Rois, si c'était avant ou après. Généralement, on pense qu'il était déjà prophète et que Dieu lui a confié une autre mission qu'il a rejetée au début. Dieu, dans le livre de Jonas, il lui est dit que la parole de l'Éternel, au tout début, la parole de l'Éternel lui fut adressée. Et Dieu lui avait dit, « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Dieu donne une mission à son prophète. Et que fait son prophète ? Verset 3, « Il se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. » On lui confie une mission. Et en fait, il s'enfuit au plus loin de l'endroit où il doit aller. Et on a... C'est facile pour nous d'être un peu choqués, d'être un peu critiques de ce genre d'attitude. Mais encore une fois, lorsque nous lisons la Bible, elle veut nous parler. Et peut-être que l'Éternel, que Dieu, veut dire à Pierre, je t'ai donné une mission et en fait tu es parti à l'opposé. On va voir en fait dans ce livre que Dieu finit toujours par avoir raison. Si on se braque trop, si on persévère dans la désobéissance, il peut nous laisser tomber et nous laisser aller jusqu'au fruit ultime de notre désobéissance, qui sera d'être perdu pour l'éternité, loin de la présence de Dieu à jamais. Mais notre Dieu est un Dieu de la deuxième chance. Notre Dieu est un Dieu de la troisième et quatrième et cinquième. Notre Dieu est un Dieu patient. Et nous pouvons le remercier pour ça. Parce que si vous êtes comme moi, vous n'obéissez pas toujours tout de suite. Et Dieu merci, on bénit Dieu pour cette patience qu'il a avec chacun de nous. Lorsque nous laissons tenter, que nous tombons dans le péché, pas seulement une fois, mais deux fois, trois fois, Dieu est toujours là, prêt à nous pardonner. Dieu est toujours là, prêt à nous restaurer. Dieu est toujours là à faire que nous lui obéissions enfin. Mais il vaut mieux ne pas présumer de ces nouvelles fois où il va nous donner une autre chance. Et dès que nous le pouvons, je vous conseille et je me conseille de lui obéir. D'autant qu'on va le voir, l'obéissance à Dieu, même si parfois elle peut sembler difficile, elle a beaucoup de bénéfices. L'apôtre Jean et d'autres ont dit souvent que celui qui aime Dieu, c'est celui qui obéit à Dieu. Lorsque vous obéissez à ce que Dieu vous demande, à ses préceptes que vous trouvez dans sa parole, vous êtes béni, même si au départ ça peut être difficile à vivre ou difficile d'obéir. C'est toujours le bon choix, c'est le choix de l'obéissance. L'ennemi veut nous faire croire que la désobéissance peut avoir du bon. Et c'est ce qui se passe avec le prophète Jonas. Dieu lui demande d'aller à Ninive, qui était probablement à 800 km ou 700 km de là où il se trouvait. Lui, il va aller au port de Joppa ou Jaffa, près de la ville de Tel Aviv aujourd'hui, pour aller aussi loin qu'il le peut près du détroit de Gibraltar. On pense que la ville de Tarsis, certains prononcent Tarshish, a été retrouvée, une vieille ville en ruine, des ruines d'une ville qui se trouve pas loin du détroit de Gibraltar, qui était un peu le bout du monde à l'époque. Et on a fait remarquer en étudiant le premier chapitre que on ne peut pas jauger notre obéissance à la lumière de nos circonstances. Probablement que Jonas, ayant décidé de désobéir et de ne pas aller à Ninive, on peut penser que quand il a pu prendre le bus pour aller à Jaffa, que là il a trouvé un ferry qui allait jusqu'en Espagne, qu'il a pu payer le prix du transport, qu'il a pu monter à bord et aller se coucher dans le, au fond du bateau, dans sa cabine, on peut penser qu'il s'est dit, c'est bien la preuve que j'obéis à Dieu, parce que mes circonstances sont favorables. J'ai pu trouver un bus qui allait jusqu'à Joppa, j'ai pu trouver un bateau qui n'était pas encore parti, j'ai eu la somme d'argent nécessaire pour acheter le ticket pour loin de Dieu. Et voilà, je suis maintenant sur le bateau, je suis en paix. Mes circonstances prouvent que je suis dans la volonté du Seigneur. Dans la volonté du Seigneur, elle n'est pas dans vos circonstances. La volonté du Seigneur, elle est dans sa parole. Elle est dans ce que le Seigneur vous dit de faire. Et ça, c'est à chacun de nous d'en juger, mais une base fondamentale, c'est est-ce que c'est en accord avec sa parole ? D'où l'importance de connaître cette parole, de connaître les promesses de Dieu, de connaître l'Ancien, le Nouveau Testament, de savoir trouver l'intimité avec Dieu en lisant sa parole, de façon à ce qu'il puisse nous guider, nous demander des choses. On a brièvement, vous savez ce qui s'est passé. Il voulait surtout pas aller à Ninive. Tout sauf Ninive. Aujourd'hui, on parle de tout sauf Sarkozy, tout sauf Hollande. Mais là, c'était dans son esprit, c'était tous sauf Ninive. Ninive, c'était une grande ville de l'époque qui était la capitale de ce qu'on appelle, qui était l'Assyrie, l'empire d'Assyrie, pas le royaume de Syrie, mais l'empire d'Assyrie, qui était le grand empire à l'époque où les faits se passaient. Et les Assyriens étaient un peuple ennemi d'Israël. Ils ont fini par emmener Israël en captivité, et c'était des gens qui étaient connus pour leur cruauté. C'est eux qui ont, on pense que c'est eux qui ont inventé le supplice de la croix, c'est eux qui dépeçaient leurs ennemis, leurs prisonniers, qui leur faisaient mourir en les faisant, en les mettant sur des bouts de bois qu'ils enfilaient à travers leur corps. Si je disais qu'en fait c'est étonnant de voir qu'aujourd'hui, quand on pense à des ennemis très cruels, on pense à Daesh. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, Daesh, Ninive, on pense que les ruines se trouvent près de Mossoul. Donc c'est dans cette même région d'Irak, un peu comme s'il y avait des principautés diaboliques qui sont depuis toujours attachés à cette région pour inspirer une cruauté sans égale. Mais un autre prophète a parlé de Ninive, et on va lire un peu pour vous donner un peu une image et pour que vous compreniez mieux un peu l'aversion que Jonas avait à aller prêcher l'Évangile, parce que c'est ce que Dieu lui demandait. Dans le prophète Nahum, c'est un peu plus loin sur votre droite, avant Habacuc. C'est tout de suite après le prophète Michée, si vous trouvez un de ces noms. Sinon, vous pouvez simplement écouter. Ninive, c'était une grande ville. Mais voilà ce qu'en dit le prophète Nahum. Chapitre 3, c'était aussi une ville sanguinaire. Il disait « Malheur à la ville sanguinaire pleine de mensonges, remplie de violence, qui ne cesse de se livrer au pillage. On entend le bruit du fouet, le fracas des roues, le galop des chevaux, le roulement des chars, les cavaliers chargent, l'épée étincelle, la lance brille, une multitude de blessés, une foule de cadavres, des morts innombrables. On trébuche sur les morts. C'est à cause des nombreuses prostitutions de la prostituée pleine de grâce, maîtresse magicienne, qui vendait des nations par ses prostitutions et des peuples par sa magie. Et il continuait, oui, c'était la menace, l'accusation maintenant, plutôt la menace. « Oui, je m'en prends à toi, déclare l'Éternel, le maître de l'univers. Je relèverai les pans de ta robe jusque sur ton visage. Je montrerai ta nudité aux nations et ton déshonneur au royaume. Je jetterai sur toi des ordures, je te couvrirai de honte et je te donnerai en spectacle. Tous ceux qui te verront fuiront loin de toi. On dira, Ninive est détruite, qui la plaindra ?» Prophétie très violente contre une ville très sanguinaire. Certains pensent qu'en fait, il y a, suite à l'intervention du prophète Jonas, qu'on va lire, on va voir, il y a eu un vrai réveil à Ninive. Et la question, c'est de savoir est-ce que cette menace est arrivée après, auquel cas Ninive serait retombée dans ses travers et son péché, sa violence sanguinaire. Ou est-ce que c'était avant? Mais toujours est-il que on peut un peu mieux comprendre qu'en fait, Jonas n'avait pas envie d'aller là-bas. C'est un peu comme si on vous envoyait annoncer l'évangile à Raqqa au milieu des gens de Daesh. Alors, certains pensent que c'était de la peur d'être lui-même victime de cette violence. Mais il y a un passage plus loin dans le texte qui nous dit, c'est dans le chapitre 4 de Jonas, verset 2, où il est dit que Jonas pria l'Éternel en disant « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est que ce que je voulais éviter en fuyant à Tarsis. » En effet, je savais que tu es un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère et riche en bonté, et qui regrette le mal que tu envoies. Et en fait, ce qu'il dit là, c'est que sa principale crainte, ce n'était pas tellement la peur physique de ce qui pouvait lui arriver, mais le fait que Dieu pouvait transformer, pouvait racheter ces Assyriens de Ninive. Il pouvait les sauver, il pouvait les aimer. Dieu est un Dieu qui aime les gens de Daesh. Ce matin, vous avez peut-être entendu, à New York, il y a eu une explosion violente qui a tué personne, mais qui a fait 25 blessés. Ils ont découvert une autre cocotte minute qui était remplie d'explosifs, apparemment dans un autre endroit. Donc, les attentats peuvent. On ne sait pas encore. Alors que j'ai écouté, on ne savait pas encore si c'était vraiment un attentat terroriste ou simplement quelqu'un qui s'amusait à faire exploser des cocottes minutes pour faire de la pub pour Seb. Les cocottes Seb, non. On ne sait pas, mais imaginez qu'on vous demande d'aller dans un pays pour annoncer l'évangile. Vous avez peut-être peur, mais vous détestez tellement ces gens, vous voyez leur cruauté, vous voyez ce qu'ils inspirent d'autres à faire. Il y avait un reportage sur France 2, sur 2 mois après l'attentat du 14 juillet ici à Nice, qui a fait 86 morts et des centaines de blessés, des gens qui sont encore dans les hôpitaux. Et je ne sais pas pour vous, mais moi, chaque fois que je repense à ces événements, j'ai beaucoup d'émotions. Les pleurs peuvent venir facilement. On n'était pas sur place, mais on était le lendemain. On a vu les gens qui se réunissaient. On a vu la souffrance insensée, la souffrance gratuite qui est imposée à des gens qui n'ont rien demandé, qui venaient voir un feu d'artifice. On a des personnes dans l'assemblée qui ont été affectés par le mouvement de foule, donc ils se rappellent la panique qui les a saisis. On en a même qui ont vu le camion en action, pour ainsi dire, avec des gens qui volaient plus haut que le camion, des enfants, et on se dit, c'est pas possible. Dieu ne peut pas aimer ces gens. Vous savez qu'il y avait des petits mausolées spontanées qui s'étaient installées tout le long de la prom, à partir de Lanval jusqu'à l'hôtel Méridien. Il y avait des fleurs, des jouets en peluche pour les enfants qui avaient été tués. Et puis il y avait un endroit où il y avait juste des cailloux, il y avait même des crottes de chiens, comme une espèce de mausolée. En fait, c'est là que l'assassin avait été finalement tué par la police. Mais le réflexe naturel humain, c'est d'avoir de la haine contre ces gens qui font périr des innocents. Et de la même façon, on se dit, c'est pas possible, Dieu ne peut pas sauver ces fous de Dieu, de Daesh. Et pourtant, Dieu est mort pour tous les hommes. C'est difficile à admettre, surtout j'imagine pour les gens qui ont été directement affectés, pour les parents, pour les maris, les femmes qui ont perdu leur mari, leur femme, leurs enfants, pour les grands-pères qui ont perdu leur petite fille. Il y avait un homme qui... On a une équipe qui est venue de Billy Graham, qui est venue former un peu les chrétiens des églises de Nice pour aller faire un ministère de compassion. On allait sur la prom les jours qui ont suivi pour demander aux gens comment ils vivaient les choses, si on pouvait prier avec eux. C'était pas de l'évangélisation, c'était un ministère de présence. Et il y avait ce grand-père avec qui à qui je pouvais vraiment m'associer. Il était dans un chagrin inconsolable. Il tenait sa petite fille à la main le soir du drame. Sa petite fille a été éclatée et lui a survécu, il n'a pas été touché. Et cet homme était l'image même d'un chagrin sans nom. Il disait, mais ça aurait dû être moi, ça aurait dû être moi. Il revenait tous les soirs et il passait plusieurs heures à pleurer. Il était inconsolable. Et pourtant Dieu aime ces gens qui assassinent gratuitement au nom d'une idéologie complètement dévoyée, complètement insensée. Et Jonas, on ne sait pas s'il n'avait pas eu sa mère capturée par les Assyriens, violée par des Assyriens, des enfants, des frères, tués violemment. Mais toujours est-il qu'il refusait complètement. Et c'est la raison pour laquelle il ne voulait pas que ces gens soient sauvés. L'histoire, vous la connaissez, il descend le bateau et est pris par une tempête. Le capitaine du bateau, ce ne sont pas des Assyriens, ces gens-là, ce sont des Phéniciens, les gens qui étaient les marins de l'époque. Et ces marins professionnels se disent que, voyant la tempête, savent qu'il y a quelque chose qui se passe qui est différent. Ils ont peur que le bateau soit cassé en deux, qu'ils coulent tous, qu'ils périssent tous. Et là, il est dit qu'ils implorent leur Dieu. Ils ont des idoles, probablement, dans leur culture, même s'ils ne les invoquent jamais. Quand on est dans la peur et dans le désespoir, souvent, c'est là qu'on pense à Dieu ou au Dieu qu'on peut s'être fait. Le capitaine trouve cet homme, Jonas, endormi au fond du bateau. Lui, il dormait pour oublier qu'il désobéissait à Dieu, probablement. Et il lui demande qu'est-ce qu'il a fait. Il leur dit, en fait, qu'il fuit loin de la présence de Dieu, qu'il essaye de fuir loin de cette présence, parce qu'on sait que Dieu est partout, que Dieu est omniprésent. On ne peut pas lui échapper. On peut fermer les yeux et penser comme les enfants que si on ferme les yeux, les choses autour de nous vont disparaître. Mais Dieu est là, qu'on le veuille ou non, qu'on le reconnaisse ou non, Dieu est partout. Dieu est omniprésent. Et il lui demande qu'est-ce qu'on doit faire, et il leur dit, c'est simple, jetez-moi dans l'eau et les choses vont se calmer. Il leur avait dit qu'il était hébreu, qu'il craignait l'Éternel, le Dieu du ciel, qui a fait la mer et la terre. Ce bateau dans cette mer en furie s'est enfermé en un institut biblique ou école de théologie. Ils apprennent beaucoup de choses sur Dieu rapidement, qu'il a créé les cieux et la terre et qu'il contrôle les mers. Mais ils hésitent quand même au départ à le jeter dans l'eau, parce que si c'est le cas, c'est un prophète et ils ont peur de s'en prendre à quelqu'un qui représente Dieu. Mais ils essayent de regagner la terre ferme, et voyant que ça ne marche pas, ils balancent Jonas dans l'eau, et aussitôt les eaux se calment. Une mer d'huile. C'est toujours très beau lorsque, ça dépend un peu de l'heure, Nice, nous bénéficions d'un système qui fait qu'il y a une brise de mer pendant la journée qui rafraîchit la terre et une brise de terre pendant la nuit qui réchauffe la mer. D'où le climat doux, certains trouvent qu'il est trop chaud, mais statistiquement on a un climat qui est réglé par ces brises de mer et de terre. Et donc la plupart du temps la mer est un peu agitée, il y a des fois des vagues, il y a des dépressions au large dans la Méditerranée, mais il y a des moments, le matin, où, à l'inversion de ces brises de terre et de mer, et le soir aussi, où d'un seul coup, la mer est complètement lisse. Et c'est ce qui se passe. Ils le balancent, la mer était en furie, et d'un seul coup, la mer est d'huile. Ces hommes, le dernier verset du chapitre 1, ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel. Ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. Ces gens deviennent croyants devant ce miracle, devant la puissance du Dieu d'Israël, du Dieu des Hébreux. Ils en viennent à vouloir offrir un sacrifice et ils font des vœux en disant « Jamais plus j'irai adorer cette idole que j'ai dans le coin de la maison. Je vais maintenant servir Dieu. » Et puis le chapitre 2, donc, commence par, on va le lire, c'est un chapitre assez court. « L'Éternel fit venir un grand poisson pour avaler Jonas, et Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Du ventre du poisson, Jonas pria l'Éternel son Dieu en disant, « Dans ma détresse, j'ai fait appel à l'Éternel et il m'a répondu. » Du milieu du séjour des morts, j'ai appelé au secours et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans les profondeurs de la mer et les courants m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots sont passés sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. L'eau m'a couvert jusqu'à m'enlever la vie. L'abîme m'a enveloppé, les algues s'enroulaient autour de ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les verrous de la terre m'enfermaient pour toujours, mais tu m'as fait remonter vivant du gouffre, Éternel mon Dieu. Quand mon âme était abattue en moi, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton saint temple. Ceux qui s'attachent à des idoles sans consistance éloignent d'eux la bonté. Quant à moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri de reconnaissance. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. » Dernier verset, « L'Éternel parla au poisson et le poisson vomit Jonas sur la terre. » Fameux épisode de Jonas dans le ventre d'un grand poisson. Notez qu'il n'est pas dit dans le ventre d'une baleine, le poisson n'est pas précisé. Et c'est souvent et le fait que ça a été repris par en dessin animé comme Cendrillon, comme d'autres contes de fées par Walt Disney, fait que souvent on pense que Jonas c'est une belle légende, une belle histoire, qu'il est impossible qu'on se fasse avaler par un poisson. D'abord, il faudra un poisson d'une belle taille, et puis qu'on puisse survivre pendant au moins une partie de 3 jours et de 3 nuits dans le ventre d'un animal, d'un poisson. Alors là, en fait, c'est intéressant. On entend plutôt parler des épisodes dans l'histoire où on a vu des baleiniers ou des pêcheurs se faire avaler par un cachalot. Cachalots sont des poissons énormes, des mammifères, mais qui ont la capacité d'avaler un homme, qui peut se retrouver dans un estomac qui fait près de 4 mètres sur 2 mètres et dans lequel il y aurait de la place pour mettre une télé, un canapé, non. Mais au moins, ce serait possible. On raconte que certains pêcheurs ont été ainsi retrouvés, mal en point, parce qu'on imagine que les jus gastriques ne sont pas très doux sur la peau. Donc il y a en particulier un certain Bartlet, qui aurait été retrouvé comme ça, la peau toute blanche, mangée par les sucs gastriques, plus un poil sur le caillou, mais ça peut arriver à d'autres, sans passer par la baleine, et qu'il aurait en fait vécu, qu'il aurait survécu ce fâcheux séjour. Quand on va dans les régions où il y a des baleines, en Californie ou peut-être même ici en France, on peut aller voir des bateaux qui vous emmènent voir des animaux marins, notamment des grandes baleines. Là, il aurait pu être faire de la publicité pour 3 jours dans une baleine. Là, il a survécu. On raconte que des marins avaient entendu une fois une baleine qui aboyait comme un chien. Et en fait, ils avaient trouvé, après avoir attrapé la baleine, qu'il y avait un chien qui était dans cette cavité interne et qui arrivait à respirer et même à aboyer. Alors ça, c'est une approche de dire qu'en fait, Jonas a vraiment passé 3 jours vivant dans le ventre du poisson. Et on a tendance à penser à ça parce qu'on dit que Jonas a prié à l'Éternel son Dieu. On a lu la prière, elle était assez rapide. Et il aurait pu passer donc ce temps à prier dans le ventre du poisson. Où il est possible, et c'est une autre option, pour ceux qui vous diraient que cette histoire est invraisemblable, vous pouvez leur dire, on n'est pas sûr en fait qu'il est possible que Jonas ait été happé par ce poisson, que les marins, lorsque la mer est devenue calme, ont dû voir approcher, engober, avaler cet homme qui refusait de faire ce que Dieu voulait qu'il fasse. Et il est possible qu'il soit rapidement mort et que cette prière qui nous est livrée, elle ait été prononcée dans la phase de voyage vers les entrailles du poisson, et que là, faute d'air ou faute de désespoir ou de panique, qu'il ait fait une crise cardiaque, peu importe, qu'il soit mort, et qu'en fait, il ait été ramené à la vie, puisqu'il est dit « Tu m'as fait remonter vivant du gouffre ». Alors est-ce que ça veut dire qu'il était mort ? C'est possible, Dieu peut faire des miracles en permettant qu'il y ait de l'espace pour vivre dans le poisson ou en ressuscitant le prophète. Certains pensent même que pour que, lorsque Jésus lui-même a parlé de Jonas, et c'est la plus grande raison pour laquelle on peut être sûr que c'est un personnage historique, dans Matthieu 12 et dans Luc aussi, Jésus, parlant de la population d'Israël à son époque, dans Matthieu chapitre 12, vous pouvez vous y tourner, le premier des évangiles après les petits prophètes, Matthieu 12, 40, Jésus est en proie aux chefs religieux qui essayent de discréditer son témoignage, le fait qu'il ait été le Messie, le Fils de Dieu, le Fils de David, et en même temps le Maître de David. Au verset, on va lire Matthieu 12, 38. Alors quelques-uns des spécialistes de la loi et des pharisiens prirent la parole et dirent : Maître, s'adressant à Jésus, nous voudrions voir un signe miraculeux de ta part. Il leur répondit : Une génération mauvaise et adultère réclame un signe miraculeux. Il ne lui sera pas donné d'autre signe que celui du prophète Jonas. Il ajoute : En effet, de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans la terre. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront avec cette génération et la condamneront parce qu'ils ont changé d'attitude à la prédication de Jonas. Or ici, il y a plus que Jonas. Il ajoute, lors du jugement, la reine du Midi se lèvera avec cette génération et la condamnera, la reine de Sheba, parce qu'elle est venue des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Or, il y a plus ici que Salomon. Jésus leur rappelait qu'il était plus que Jonas, qu'il était plus que Salomon, mais surtout que le Fils de l'homme allait passer 3 jours et 3 nuits dans la terre, faisant allusion à sa crucifixion et au fait que Jésus allait mourir physiquement et qu'il allait passer 3 jours et 3 nuits. Alors, on ne va pas rentrer dans les calculs détaillés, mais c'est vrai qu'entre le moment où Jésus est crucifié et le moment où il est ressuscité, certains trouvent qu'il n'y a pas tout à fait 3 jours et 3 nuits. Il faut savoir que pour les Israélites, pour les Juifs de l'époque, une journée comptait, même si c'était juste une portion de la journée. Mais peu importe, ça veut dire qu'en fait, Jonas a bien passé un bon moment. Et certains, donc, je disais, pensent que pour que la comparaison que Jésus fait aux chefs juifs de son époque voudrait dire qu'il y a eu aussi une résurrection de Jonas. Peu importe, en fait. Il y avait l'histoire d'une petite fille qui était avec l'armée du salut et qui annonçait dans la rue l'histoire de Jonas. Et un athée lui disait : Mais tu crois à cette histoire, toi ? Et la petite fille lui dit : Mais bien sûr, Jésus en a parlé, c'est dans la Bible, je crois vraiment qu'il y a eu ce prophète qui est mort. Et il lui dit : Donc tu crois qu'il sera au paradis ? Elle dit : Oui, je sais qu'il sera au paradis. Et il lui dit : Et imagine-toi que tu arrives au paradis et que tu ne trouves pas Jonas. Qu'est-ce qui se passera alors ? Alors la petite fille lui dit : Moi je ne sais pas, mais alors vous lui demanderez. Sous-entendu, vous serez dans l'autre endroit et vous pourrez lui demander. L'idée, c'est que Jonas a été l'objet d'un miracle. Ce qui est curieux, c'est que si jamais il y a des incrédules qui pensent que c'est ridicule de penser qu'un homme a pu se trouver dans le ventre d'un poisson et survivre et prier, Ces mêmes personnes n'ont aucun problème à imaginer que l'homme ait pu construire des sous-marins, même des sous-marins qui peuvent rester en submersion pendant des mois. Et c'est comme s'ils attribuent plus de puissance à l'homme qu'à Dieu. Vous pouvez leur dire, si l'homme peut faire un sous-marin, Dieu peut faire qu'un poisson sert de sous-marin, en quelque sorte. Ce chapitre, en fait, c'est une belle prière. C'est une prière où on voit que le prophète se repent. On le voit progressivement revenir à Dieu. Et comme je le disais en introduction, c'est mieux de venir à Dieu, de revenir à lui sans qu'il soit obligé de nous faire passer par le ventre d'une baleine. Dieu peut faire appel à des événements difficiles, que ce soit au niveau des relations avec les êtres chers, on peut vivre un décès, on peut avoir des situations économiques difficiles qui font que on se tourne vers lui, on pense à lui, des situations de santé, de mauvaise santé, de maladie. Mais c'est ce qu'il dit. Il dit, dans ma détresse, j'ai fait appel à l'Éternel. Et souvent, c'est ce que nous, les hommes, nous faisons. C'est souvent dans la détresse, dans les problèmes, qu'on pense à Dieu. Et c'est un bon apprentissage que d'apprendre à penser à Dieu quand les choses vont bien, pour le remercier. Pour lui exprimer notre connaissance. Et c'est vrai que certains disent que Dieu parle par la voix basse lorsque nos circonstances sont favorables, mais qu'il parle avec un mégaphone lorsque nous sommes dans la souffrance, dans la détresse. Des fois, il a besoin de nous faire passer par là pour qu'on appelle au secours et voir qu'il entend notre voix. Et il exprime sa reconnaissance. Dans ma détresse, j'ai fait appel à l'Éternel et il m'a répondu, du milieu du séjour des morts, j'ai appelé au secours et tu as entendu ma voix. Ce qui est remarquable, c'est de réaliser qu'en fait, cette prière, ce sont des paroles bibliques, ce sont des passages bibliques qui reviennent spontanément au cœur de Jonas. Dans ma détresse, j'ai fait appel à l'Éternel. C'est le psaume 18, 6. On n'a pas le temps d'aller voir chaque passage, mais je vous invite à les retrouver. Si vous avez une Bible avec des explications, vous pouvez voir les correspondances. Dans ma détresse, j'ai fait appel à l'Éternel. En latin, c'est de profundis, des profondeurs. Et c'est vraiment le cas là. Il était dans les profondeurs. Il a crié vers l'Éternel. J'ai fait appel à l'Éternel, c'est aussi le psaume 42, 8. Et il m'a répondu, c'est le psaume 31, 22. Du milieu du séjour des morts, j'ai appelé au secours et tu as entendu ma voix. C'est le mot Sheol qu'on connaît par ailleurs, qu'on appelle des fois la tombe, mais c'est le séjour des morts qui était divisé avant que Jésus ne soit ressuscité en deux parties, le sein d'Abraham et le séjour des impies. Et il y avait un abîme, un abysse qui séparait les deux, de fait que dans Luc 16, lorsqu'il est question de Lazare qui se retrouve dans le sein d'Abraham, il y a le riche propriétaire devant la maison duquel il mendiait, qui ne peut pas passer du côté d'Abraham, même s'il le voulait. Lorsque nous mourons, la lettre aux Hébreux nous dit que Nous ne mourons qu'une seule fois et après cela vient le jugement. Dieu est un Dieu d'une chance, de deux chances, de trois chances, mais ne poussez pas le bouchon trop loin. Je me parle à moi, parce qu'il y a un moment où la mort intervient, et à part quelques exceptions de résurrection, comme Lazare, il n'y a pas de deuxième chance. Une fois qu'on est mort, le jugement intervient. Soit on a reconnu Jésus comme notre Seigneur et notre Sauveur, soit on ne l'a pas fait, auquel cas on n'est pas au bénéfice de son salut et on va dans ce que la Bible appelle l'enfer ou le lac de feu, loin de la présence de Dieu pour toujours. Jésus a parlé davantage de l'enfer que du paradis. Ce n'est pas une belle allégorie à la Walt Disney, c'est un endroit réel, c'est une vérité. Au fond de nous, nous aspirons tous à ce jugement. Dieu a mis en nous le sentiment de l'éternité, nous dit le livre de l'Ecclésiaste, mais aussi le sentiment de la justice. On est, dès l'enfance, on s'énerve lorsque des choses sont injustes. Quand on grandit, on fait des associations, on fait des pétitions, on essaie de lutter contre l'injustice par la politique, par l'économie, par des tas de moyens, mais on est profondément affecté par ce qui est injuste. Et Dieu nous dit que les injustes finiront en enfer, que les justes finiront avec lui dans ce que une présence éternelle de félicité. Il est émerveillé que l'Éternel a entendu sa voix. Il a été jeté dans l'eau, dans les profondeurs de la mer. Il a été envahi par les courants. Ça, c'est le psaume 42:8. Toutes tes vagues et tous tes flots sont passés sur moi. Et il se disait, psaume 31:22, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. L'eau m'a couvert jusqu'à m'enlever la vie. Donc certains pensent que ça s'est vraiment passé, d'autres disent que c'est une façon d'exprimer ce qu'il ressentait au milieu de l'estomac de la baleine ou du grand poisson. Des poulpes à moitié digérées, des choses qui flottaient dans les jus gastriques, mais il était peut-être bien mort. Peu importe, l'abîme m'a enveloppé, les algues s'enroulaient autour de ma tête. Donc quand il a été rejeté par le poisson, on imagine le spectacle qu'il devait être. Il est descendu jusqu'à racine des montagnes. C'est une belle expression, ça, savoir que les montagnes ont des racines. Les verrous de la terre m'ont fermé pour toujours, mais tu m'as fait remonter vivant du gouffre, éternel mon Dieu. Et puis là, verset 8, quand mon âme était abattue en moi, je me suis souvenu de l'Éternel. Et c'est souvent lorsqu'on est vraiment au fond du gouffre, et ça peut encore une fois être tout un tas de choses, on se rappelle de Dieu. Sa présence, c'est son saint temple. Et puis, il fait remarquer, il remercie Dieu de l'avoir écouté, il rappelle son histoire, et puis là, les versets 9-10, c'est un peu comme une reconsécration à Dieu. Parce qu'il dit, ceux qui s'attachent à des idoles sans consistance éloignent d'eux la bonté. Ça, c'est un sujet de thèse théologique ou au moins d'un sermon, on pourrait faire un sermon sur les idoles sans consistance. Et ça, c'est aussi une expression qui est reprise dans le psaume 31, verset 7, par David, les idoles sans consistance, les faux dieux, les vaines idoles. On a étudié il n'y a pas très longtemps l'Ecclésiaste, on a parlé de toutes ces choses que nous mettons au centre de nos vies ou en priorité numéro un et qui en fait ne valent rien du tout, qui ne résistent pas à l'épreuve du temps ou de la mort. Et si on est captivé par des idoles, il dit que l'Éternel éloigne d'eux, ou plutôt ils éloignent d'eux-mêmes la bonté. Sous-entendu, la bonté de Dieu, la présence de Dieu, le réconfort que Dieu, le seul vrai Dieu, peut nous donner, lui qui est le consolateur des consolateurs, lui vers lequel on peut se tourner même lorsqu'on a... J'ai du mal à dire ces paroles, même lorsqu'on perdrait une petite fille, on peut trouver du réconfort auprès de Dieu, même si la souffrance est béante et terrible. Et puis il continue, quant à moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri de reconnaissance, j'accomplirai les vœux que j'ai faits. Il lui a fallu cette épreuve terrible d'être avalé par un poisson, de mourir ou pas, mais là il se reconsacre à Dieu, il veut lui offrir des sacrifices, il veut l'honorer par des sacrifices. Ça peut être des sacrifices de sa vie, ça peut être des sacrifices de ses paroles, de sa louange, ça peut être des sacrifices financiers, ça peut être des sacrifices de consécration, mais avec un cri de reconnaissance. Merci Dieu, merci Seigneur. Et il garantit que les vœux qu'il a pu prononcer dans le passé, il va les respecter, il va s'y remettre. Tous, lorsque nous sommes venus à Dieu, nous avons fait des vœux. Je me rappelle, lorsque j'étais en école biblique, on avait un professeur qui avait fait une petite carte qui s'appelle les 4 A. Aux États-Unis, au Canada, il y a une association pour les automobilistes qui, je ne sais plus ce que sont les 3 lettres A, Anonymous ou Association des automobilistes d'Amérique, les 3 A. Et c'est bien si on cotise, si jamais on tombe en panne, ils vous donnent accès à une voiture, ils viennent vous chercher, etc. Et lui, il avait fait les 4 A. Ces 4 A, c'était anything, n'importe quoi, anywhere, n'importe où, at any cost, à n'importe quel coût, et j'ai oublié le quatrième A, c'était le coût à n'importe quel moment, voilà, oui. Donc c'était un engagement de dire je. Et il nous invitait à venir devant l'autel et à signer cette carte. Et moi j'étais. Alléluia, je suis parti signer la carte. Puis j'ai remarqué que Nancy ne venait pas. Donc après cet appel, je suis revenu la trouver, j'ai dit, mais tu veux pas faire tout ça? Elle a dit, avec la grâce de Dieu, mais je veux pas signer un genre de chose pareille, ce qui était sage. Parce que qui sommes-nous pour... On peut prier qu'on soit capable de faire ça, ces choses, à n'importe quel moment, à n'importe quel coup, n'importe quoi, pour n'importe quelle chose, mais c'est un engagement terrible. Et là, il avait fait des vœux, et là aussi, il disait, je vais faire ces vœux. Et il a cette grande phrase, là aussi, c'est toute une étude biblique, le salut vient de l'Éternel. Ça ne vient pas des hommes, il ne vient pas de l'économie, il ne vient pas de la politique, il ne vient pas des progrès scientifiques, il ne vient pas de l'iPhone 8 ou 10. Le salut vient de Dieu seulement. Et l'Éternel parla au poisson, et le poisson vomit Jonas sur la terre. Ça a dû être un spectacle, on aimerait bien voir la vidéo, parce qu'une baleine ne peut pas s'approcher trop près, sous peine de se retrouver coincé par son propre poids. Donc il y a dû avoir un joli jet. Et notre prophète s'est retrouvé, après avoir été dans l'eau, il s'est retrouvé à faire l'avion. Mais on lira la suite la semaine prochaine. Cette prière est un modèle de prière qu'on peut étudier pour savoir comment prier. Une chose fondamentale qu'on a soulignée sans le souligner, c'est qu'il priait la parole de Dieu. souvent on dit que dans la Bible, il n'est pas dit qu'il faille prier la Bible elle-même. Et c'est vrai que dans le Nouveau Testament, il n'y a pas un endroit où on dit « mémorisez des passages entiers de la Bible pour que quand vous priez, vous les répétiez ». Mais il y a plein d'exemples, et ça, ça en est un des plus marquants. En fait, c'est des choses qu'on sait être vraies parce qu'elles sont la parole de Dieu. Jésus a dit « si vous priez quoi que ce soit selon ma volonté, cela vous sera accordé ». Il ne nous a jamais demandé de prier pour une Porsche rouge. Donc on peut prier pour demander une Porsche rouge, peut-être qu'il nous l'accordera, si c'est quelque chose qui vous peut vous motiver. Mais si on prie les choses qui sont dans sa parole, les choses qui sont selon sa volonté, qui est exprimée, alors on peut être assuré qu'il va les exaucer. Et toujours cette idée de reconnaissance, mais d'obéissance. On peut prier jusqu'à être bleu de visage, mais si on n'est pas prêt à obéir le Seigneur, pourquoi se donnerait-il la peine d'exaucer nos prières? Si notre cœur est vraiment à l'endroit où il doit être, prêt à obéir Dieu, alors Dieu peut nous exaucer, Dieu peut faire de grandes choses en nous utilisant. C'est notre prière pour nous tous cette année. On a repris les réunions de prière. Malheureusement, ce mardi, il n'y aura pas la prière des hommes. Mais mercredi soir, la prière, je vous invite à venir si vous vous sentez touché par le fait que Dieu veut agir et qu'il agit par la prière. Prions, justement. Seigneur, merci pour cette histoire de Jonas. Ce personnage historique qui a vécu quelque chose d'un peu bizarre, d'un peu surprenant. Et soit qu'il ait survécu à l'intérieur de la baleine ou du grand poisson, comme dit le texte réellement, soit qu'il soit mort et ressuscité comme modèle comme type de ce que le Fils de l'homme allait vivre en mourant pour nos péchés. Tu veux nous encourager à t'obéir, Seigneur. On voit où mène la désobéissance. Tu ne nous éloignes pas complètement de toi, mais tu nous fais passer pour des épreuves afin que de nous-mêmes, nous réalisions, Seigneur, que nous venions au bout de nous-mêmes pour nous tourner vers toi. C'est notre prière, Seigneur, pour tous. Seigneur, je te prie de nous aider à t'obéir, Seigneur, tout de suite, pour connaître tout de suite la bénédiction de l'amour du Père et du Fils. Seigneur, tu dis que ceux qui t'aiment, ce sont ceux qui t'obéissent. Aide-nous à nous montrer l'amour que nous avons pour toi, Seigneur, par cette obéissance. Prions ces choses par le nom précieux et merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le salut vient de l'Éternel. Amen. Amen.